France Culture, Le Grand Tour, Le Grand Tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Arnaud, bonsoir. Connaissez-vous l'ESSAR, l'École supérieure des arts du rire, va ouvrir ses portes à la rentrée à Avignon avec leur première promotion sous la houlette de Mélanie et Frédéric Biessy, directeur de la Scala, et de Jérémy Ferrari, le célèbre humoriste qui remplit les plus grandes salles de France et d'ailleurs. Alors, peut-on apprendre à rire ? Je vais ce soir le demander au trio organisateur de ce nouveau diplôme.
Alors, je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis humoriste et producteur. Voilà, mais bon, j'ai plein d'autres petits trucs, mais bon, on n'aura pas là. C'est pas mon interview, c'est pour l'école. Donc je m'arrête.
Alors justement, vous faites d'autres petits trucs, et notamment cette création d'une école qui n'est pas un petit truc, une école pour apprendre aux futurs comédiens l'humour. Est-ce que ça va être des comédiens d'ailleurs, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez l'impression que l'humour peut s'apprendre ? Est-ce qu'on peut créer une école pour apprendre à être drôle ?
Alors non, ça s'apprend pas, mais on peut apprendre la technique. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la prétention de dire vous rentrez, vous n'êtes pas drôle, vous sortez, vous êtes drôle. Ça serait complètement stupide de promettre ça aux gens. Non, l'idée, en fait, c'est d'avoir des gens qui ont envie de s'y intéresser. On est vraiment sur la recherche de gens qui ont envie de s'intéresser à ce qu'est l'humour. Après, évidemment, je pense qu'on va avoir une majorité de gens qui veulent monter sur scène en one-man show, en duo ou en trio, mais je veux dire, un comédien qui veut juste se spécialiser en humour est également le bienvenu. Le but de cette école, c'est de leur apprendre une méthodologie de travail et de leur donner des bases pour améliorer leurs aptitudes. C'est pour ça que l'école, elle est là pour faire vraiment un accompagnement. Vous savez, moi, je reçois des centaines de messages par mois de gens qui veulent devenir humoristes, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Donc la plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent un peu de leur côté, puis après, ils vont dans des comedy clubs se tester. Alors certains vont trouver leur voie immédiatement comme ça, et c'est très bien. Je veux dire, moi, j'étais plutôt autodidacte, donc je ne suis pas là pour dire tout le monde doit passer par une école. Mais l'idée, c'est de proposer un vrai programme, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des écoles d'humour, mais qui sont un peu légères, quoi. C'est-à-dire qu'on va leur proposer 6 heures, 9 heures, 10 heures par semaine avec juste un professeur. Nous, l'idée, c'était de proposer une vraie école, comme ils ont déjà aux États-Unis, comme ils ont déjà au Canada, parce que l'humour en France prend une place extrêmement importante. On sait maintenant que c'est les spectacles qui marchent le mieux, qui font le plus de billetterie. Il n'y a pas vraiment de formation très très complète. Je ne critique pas les autres formations. Je dis que nous, notre école, elle propose 6 heures d'improvisation, 6 heures d'écriture, 6 heures de théâtre, 3 heures de travail sur le corps, 3 heures de travail sur l'humour de l'histoire, l'histoire de l'humour, pardon, 3 heures de sport et 3 heures de débat et rhétorique, c'est-à-dire un professeur qui va leur apprendre à analyser la presse, construire un argumentaire, que ce soit pour répondre à des interviews, que ce soit pour s'en servir dans leur sketch. Donc à l'heure actuelle, ça n'existe pas. La deuxième année, on leur fait 18 heures de cours en gardant les cours mères, théâtre, improvisation, écriture. Là, le but de la deuxième année, c'est qu'ils ressortent avec un spectacle complet. Et on va leur donner accès à un comedy club gratuitement devant un public qui n'a pas payé, qui vient les voir, découvrir les élèves de l'école. C'est-à-dire que deux fois par semaine, ils ont accès tout de suite à un comedy club. La première année est à Avignon, la deuxième année, elle est à Paris. Donc, ils sont en plus sur place déjà pour aller aussi se tester dans d'autres comedy clubs. Donc, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Je pense qu'en fait, on a essayé de créer quelque chose qui manquait.
Comment on y rentre dans cette école ? Il y a une audition d'entrée ?
Alors bon, c'est très basé sur c'est très basé sur ma mentalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. Mais parce que je ne peux pas mettre de règles. Moi, je suis arrivé au cours Florent, j'étais un des plus jeunes, voire le plus jeune élève des cours Florent. Je suis arrivé à 16 ans et demi là-bas, j'ai une dérogation, alors que normalement, ils ne prenaient que les majeurs. J'avais pas le bac, donc si vous voulez, c'est très difficile pour moi de mettre des règles. Donc la première motivation, c'est...
La motivation.
Voilà, vous me l'avez volé. En fait, il n'y a pas de règles dans cette école. C'est la même chose, c'est pour... L'école coûte 9 200 € par an, parce que, évidemment, c'est une école privée, hein, donc on fait ça c'est Frédéric Biessy et Mélanie Biessy qui financent ça. On a réussi à avoir des mécènes pour obtenir 10 bourses. Moi, j'en finance 2, donc ça en fait 12. Donc il y a 12 élèves pour l'instant, on espère faire encore mieux dans l'avenir, mais pour l'instant, on en a déjà 12, pour qui on va financer la totalité de la scolarité, la totalité des 2 ans. Parce que le but aussi, c'était de permettre à des gens qui ont moins les moyens de pouvoir venir. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, j'aurais pas pu me payer une école à 9 000 € par an. Donc on a essayé vraiment de faire au mieux.
Merci beaucoup. On suivra ça. Merci.
Mais avec plaisir.
Donc Geneviève Mallet-Othoniel, qui est maintenant directrice générale de l'ESSAR, fabuleuse école.
Donc concevoir un programme éducatif, vous en avez l'habitude, vous avez fait ça souvent. Comment vous l'avez pensé, celui de cette école ici ?
Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans ce projet. Premièrement, parce que c'est un lieu qui s'inscrit dans un théâtre, un lieu de création, de diffusion. Et la première chose était de dire que les gens de l'humour vont rencontrer des comédiens, des danseurs, des gens du cirque, et tout le panorama finalement du spectacle vivant, même au-delà, et des arts plastiques. Et que donc du coup, c'était pour moi important parce que je pense qu'un artiste se construit à la fois dans ce qui le différencie des autres et ce qui le conforte dans ce qu'il est. Et donc ça, c'était la première chose qui m'a vraiment intéressée. La deuxième chose, je dois dire, c'est avec Frédéric Bissy, c'est la grande liberté que j'ai eue pour travailler, pour proposer, pour réfléchir, pour discuter, revenir en arrière, repartir. Donc ce travail de tâtonnement m'intéressait beaucoup. La troisième chose, c'est aussi la rencontre avec Jérémy Ferrari. Je connais très peu le champ de l'humour. Je le connaissais un peu, mais vraiment très peu. Et j'ai observé ce qui se passait. La première chose que je me suis dit, c'est un art à part entière, réellement, et qui n'est pas reconnu aujourd'hui comme un art à part entière. C'est toujours un peu l'humour, non ? C'est pourquoi d'ailleurs le diplôme, je l'ai appelé d'artiste humoriste. Je tenais beaucoup à ce qu'on les nomme en tant qu'artiste. La deuxième chose, quand j'ai observé comment travaillait Jérémy Ferrari dans la production de ses spectacles, il est à la fois sur un travail de recherche très très solide, donc un travail d'exploration, de recherche de sources.
Oui, de documentation.
Creuse. C'est inimaginable. Il y a très peu d'artistes qui mettent à disposition leurs sources, ce qu'il fait. C'est un travail d'interprétation incroyable et c'est un travail de narration d'un récit incroyable. Et donc, je suis partie sur ces trois piliers, recherche, interprétation, narration. Et je me suis dit, il faut qu'on garde cela. C'était ça l'idée. C'était une première année assez... assez académique, et une deuxième année où il gagne en autonomie de plus en plus pour justement être à même de partir dans le métier.
Alors je suis Frédéric Biessy, je suis le directeur général du projet Scala.
Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'école, puisque oui. C'est un de vos nouveaux projets. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où est venue cette idée et pourquoi vous avez décidé de faire appel à Jérémy Ferrari ?
À l'origine, quand on a ouvert la Scala Paris en 2018, ça faisait déjà partie du projet. J'étais parti de l'idée que je voulais accompagner un artiste. La Scala pouvait accompagner un artiste sur tout son parcours, du moment où il désire devenir un artiste, donc il faut le former, puis après il faut l'aider à créer. Puis après, il faut l'aider à se présenter au public. Et c'est cette boucle-là qu'on vient de boucler avec l'école. Donc c'est quelque chose que j'ai en tête depuis 5 ans. Et comme tout ce que j'ai fait à la Scala, il faut que je fasse la bonne rencontre. Et sur l'école, la première personne qui, pour moi, était importante avant même que je fasse appel à Jérémy, c'était Geneviève. Parce que je voulais une école qui soit à la fois accessible à tous et surtout qu'il n'y ait aucune sélection par le compte en banque des parents ou par la capacité financière des gens, puisqu'une école, ça coûte cher, et qu'au bout du compte, on voulait que les gens qui s'inscrivent là puissent avoir des aides et des soutiens.
Parce qu'il faut peut-être le redire, la Scala est un établissement privé. Alors vous avez un statut un peu particulier, vous flirtez aussi beaucoup avec le monde public du théâtre, mais c'est quand même un établissement privé.
C'est complètement privé. La définition du privé, c'est qu'elle n'a pas de subvention. Voilà. Donc je suis privé.
Et pourquoi avoir choisi spécifiquement une école du rire ?
Très bonne question. Au début, je me suis posé la question, la Scala, on mélange tous les arts. Donc j'avais toute l'attitude. Je me suis dit, une école de théâtre ? Il y en a des magnifiques, et je pense évidemment à toutes les trois auxquelles on pense tous les deux, c'est-à-dire à Lyon, à Strasbourg et à Paris.
Les écoles nationales de théâtre.
Nationales. Ensuite, il y a des écoles privées qui sont vraiment de plus en plus intéressantes et de plus en plus solides. Donc je me suis dit, j'ai rien à faire là, je vais faire une école de plus. Dans la danse, pareil. Dans le cirque, pareil. Le seul endroit où il m'a semblé que c'était un art un petit peu naissant, en tout cas qui commence à avoir une vraie place, et où il y a un peu de tout, où il y a eu la formation de ces comédie-clubs, où je me suis dit, c'est bizarre, ces comédie-clubs, à quoi ça sert exactement ? Est-ce que ça forme vraiment les gens ? Ou est-ce que ça finit par être une activité à part entière ? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de gens des comédie-clubs devenir des vrais humoristes qui ont un spectacle d'une heure. Et donc je me suis dit, peut-être que là, il y a un vrai besoin. Et en réalité, quand j'ai appelé Jérémy, il est venu pour me dire non. D'ailleurs, il le raconte très, très... de manière beaucoup plus drôle que moi. Et il est venu pour me dire non. Et quand je lui ai dit, bah, ça serait quoi l'école de tes rêves? Et qu'il m'a raconté ce que ça serait, je lui ai dit, bah, on fait ça. Alors il m'a dit oui.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, dans le cadre des 150 ans de l'impressionnisme, direction Giverny dans l'Eure, pour visiter l'exposition « Les impressionnistes et la mer ».
Merci Marie et à demain.